Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux.
Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos.
Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Haloud Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du Forum de la presse délocalisée dans la 5e région du Mali. Vous nous écoutez depuis Mopti dans les locaux du studio Kaoral, partenaire du studio Tamani. Dans ce Forum de la presse, nous allons parler de la Journée de l'Afrique. C'était il y a deux jours, le 25 mai. On va également parler de sécurité dans la région de Mopti, de la marche de l'opposition qui a eu lieu le week-end dernier et enfin de Viandan dans la région de Mopti. Pour ce faire, nous avons fait appel à trois invités, trois journalistes donc, Moussa Traoré de la radio Kounari, également partenaire du studio Tamani, Mouhamoudou Boukoum, directeur de la radio Kaoral de Mopti, Draman Koulibaly de la MAP Mopti. Je suis Ousmane Djadje Touré à la présentation, à la technique, il y a Petting Diarra et Gagny Kanté, accompagnés par nos amis techniciens de la radio Kaoral.
Le grand dialogue.
Bienvenue. L'Union africaine a donc fêté ses 53 ans. De l'organisation de l'unité africaine OUA du 25 mai 1963, l'OUA passe à l'UA en 2002, Union africaine. Le thème de ce 53e anniversaire est donc l'année africaine des droits de l'homme, avec un accent particulier sur les droits de la femme. Est-ce que cela est approprié vu les dérives sécuritaires qu'il y a en Afrique dans le reste du monde aujourd'hui? Je m'adresse là à Moussa Traoré de la radio Kounari. Est-ce que vous pensez que ce thème est bien approprié pour ce 53e anniversaire quand on voit les Chebabs de part et d'autre, quand on voit Boko Haram sévir dans une partie de l'Afrique, quand on voit le Cameroun victime d'attaque, la Côte d'Ivoire, le Mali avec Acmi, est-ce que il ne fallait pas plutôt parler de sécurité?
Je vous remercie tout d'abord, je remercie quand même le studio Tamani pour l'invitation à cette émission. C'est vrai, tu l'as dit, pour moi le thème quand même c'est évocateur, et malgré tout ce qu'on est en train de constater ça et là à travers le continent, mais que cela n'empêche, moi je dis tout simplement que aussi l'arbre ne doit pas cacher la forêt. C'est vrai, il y a certaines réalités sur le continent aujourd'hui, mais malgré ces difficultés que nous constatons, je crois que le thème quand même il est assez révélateur. Et quand on veut parler aujourd'hui des droits de l'homme et en particulier mettre l'accent sur les droits de la femme, je crois que le thème quand même est très révélateur malgré les difficultés ça et là que nous sommes en train de constater aujourd'hui.
Mamadou Boukoum, directeur de la radio Kaoral, notre hôte d'ailleurs, puisqu'on occupe cette émission est enregistrée depuis le studio de la radio Kaoral.
Bien, merci Monsieur Touré, merci à tous les auditeurs du studio Tamani. Par rapport au thème choisi, comme vous l'avez dit, moi je pense que ça va de pair, hein, pour qui connaît, pour qui qu'il parle du droit de l'homme avec un accent en particulier sur le droit des femmes, je crois que quelque part c'est transversal avec la sécurité, parce que le droit de l'homme, qui quand on veut garantir le droit de l'homme, ça veut dire que il faut un minimum de choses, il faut réunir pour l'individu, c'est-à-dire les tensions que l'Afrique est en train de vivre maintenant, c'est en violation directe des droits de l'homme. Donc ces tensions, je crois que ce thème va de pair avec l'aspect sécuritaire, parce que tout simplement quand on parvient quand on parvient vraiment à établir le droit de l'homme avec un accent sur le droit de femme, bon, le droit de l'homme tout court, je crois que ça veut dire quelque part assurer la sécurité au sein de la population africaine. Donc moi je pense que le thème est bien réfléchi, mais il faut quand même passer et élargir un peu ce thème en se référant quand même sur ces différents aspects, ces différentes tensions que l'Afrique est en train de connaître. Donc moi je crois que le thème répond bien à l'actualité que nous vivons ici en Afrique.
Mamadou Koulibaly, vous êtes donc de la MAP Mopti. Alors dites-moi, en général en Afrique, est-ce que vous pensez que les droits de l'homme sont respectés? En Afrique en général, on voit ça et là des plaintes d'Amnesty et d'autres organismes de défense des droits de l'homme. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui c'est un challenge de faire respecter les droits de l'homme en Afrique?
Je vous remercie, Monsieur Touré. Je remercie l'ensemble des auditeurs. Alors, comme les deux collègues viennent de dire, la question de sécurité est une question transversale qui parle de problèmes de sécurité, parle d'abord fondamentalement de violation de droits quelque part. Si les droits sont respectés, sont connus et respectés de tout le monde, je crois qu'il a, il va avoir très peu de problèmes, très peu de conflits. C'est parce que ces droits-là ne sont pas respectés quelque part ou par des individus qui fait en sorte que il y a toute cette situation de péripétie qu'on vit aujourd'hui. Je crois que quand on arrivera à sensibiliser l'opinion, les nations, l'opinion internationale sur le respect des droits des hommes et que chacun fait de cela son cheval de bataille, je crois que on va quand même arriver à minimiser au maximum les conflits en Afrique et dans le monde.
Moussa Traoré, vous êtes donc de la radio Kounari, également correspondant du studio Tamani. Parlons un peu de droits de la femme en Afrique. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec le droit de la femme? Est-ce qu'il y a une bonne représentativité déjà des femmes dans les instances de décision?
Bon, j'avoue, Monsieur Touré, un effort quand même a été fait dans ce sens. Lorsque vous faites un pas dans le passé et prenez par exemple les années d'indépendance depuis 1960 et jusqu'à une date récente, que de chemin a été parcouru. C'est vrai, quelque part, cela n'avait pas été soit bien compris ou il n'y avait pas cette volonté quelque part de s'y mettre. Mais j'avoue que de cette date à aujourd'hui, surtout à une date récente, beaucoup d'efforts ont été faits dans ce sens. Bon, cela aussi, ça s'explique et ça se comprend. Parce que quand tu prends le rôle dévolu à la femme dans notre société, ça handicape beaucoup plus les femmes, surtout en Afrique, mais plus particulièrement au Mali, que je maîtrise bien. Donc, cela est un handicap d'abord pour les femmes. Bon, maintenant, parler de droits spécifiques pour les femmes, cela sous-entend quelque part qu'il faut voir au niveau des instances de prise de décision, des instances de responsabilité, alors que dans la tradition, ça, ce n'est pas un rôle dévolu à la femme. Chez nous, qu'est-ce qu'on constate?
Oui. Diata Keïta, déjà, en 1236, déjà, il y a eu 7 femmes ministres dans le gouvernement de l'Empire de Sundiata. Alors, bon. est-ce qu'à ce moment-là, on peut parler de tradition?
Ouais, mais.
Puisqu'en 1235, oui. Déjà, 1235, 1236, il y avait des femmes dans le gouvernement.
Oui, des femmes dans le gouvernement. Mais quel était le rôle dévolu à celles-ci? Est-ce que c'était à titre consultatif ou bien c'était elles étaient là et elles avaient un pouvoir de décision.
Cette femme ministre qui occupait des postes ministères très importants.
Oui, c'est très important, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais moi, je dis que, est-ce qu'elles étaient là à titre consultatif? Est-ce que ces femmes-là, on les consultait seulement pour demander leur avis par rapport aux grandes décisions qu'il fallait prendre? Ou bien leur avis comptait réellement? Elles avaient une décision dans l'Assemblée et pour s'imposer? Certainement non, peut-être que c'était à titre consultatif. Et très généralement, jusqu'à preuve du contrôle, c'est ce rôle qu'on a donné à la femme africaine, et plus particulièrement à la femme malienne. Bon, c'est vrai, quand je dis que le combat a été très long, c'est tout récemment qu'on est en train de voir, avec en tout cas tout ce qu'on a pu poser comme jalon, les différentes sensibilisations qu'on a essayé de faire sur le terrain, à travers certaines actions qui est le tutelle la tutelle des femmes ou en tout cas certaines organisations non gouvernementales ont pu développer sur le terrain, qui a amené aujourd'hui qu'on est en train petit à petit de reconnaître quand même cette valeur à la femme. Voilà, c'est pour le moment, je m'arrête là, peut-être que dans le débat on en viendra.
Alors monsieur le directeur donc de la radio Kaoural de Mopti, Mamoudou Bokoum, dites-moi, parlons un peu du cas spécifique du Mali. Quand on regarde cette législature, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a moins de femmes que la dernière législature, d'une part. D'autre part, il y a moins de femmes dans le gouvernement que dans certains, beaucoup de précédents gouvernements.
Tout à fait. Au Mali, il y a le poids social. Il faut pas l'oublier. Le poids social, ça pèse toujours dans notre pays par rapport à mettre les femmes à un niveau de prise de décision. Mais on est heureux quand même par cette législation prise par les députés de donner 30% des femmes au mettre 30% de femmes sur les listes électorales, etc. Moi, je crois que c'est une sage décision. Mais en tout cas, au Mali, le problème reste toujours, parce que quand on voit la position de la femme dans notre société, jusqu'à présent, on a tendance à oublier qu'on est en train d'évoluer. Mais c'est pourquoi, parce que tout simplement le poids social pèse beaucoup sur les femmes au niveau de notre pays aujourd'hui. Donc je crois que avec des décisions prises comme ça, les choses sont en train de bouger réellement, parce qu'on a vu, vous l'avez dit, les femmes ministres ont existé, les femmes députées, malgré que le nombre soit petit, je crois qu'on a tendance à évoluer, à aller vers donner quand même aux femmes un poste responsable, mettre le maximum de femmes au poste de prise de décision. Donc c'est vrai, on est très en retard, parce qu'on a vu des pays africains qui ont des femmes comme président de la République. Donc on a vu malgré que nous avons eu une femme premier ministre, faut pas l'oublier, mais on est en train de régresser honnêtement. Donc je crois que avec cette législation qui est là, je crois que les femmes vont retrouver quand même cette place qu'elles sont en train de solliciter.
Allez-y.
Quand même réagir. Moi, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord qu'on donne vraiment la place aux femmes. Je n'ai rien contre. Mais je me dis quelque part aussi, est-ce que en allant dans ce sens, de façon systématique comme ça, la façon dont nous sommes en train de faire et de procéder, est-ce que ça va pas créer un autre problème? Moi, je te prends un exemple très très pratique. Hein. Je reste ici au niveau de la région. Je te prends un exemple très pratique. Je prends quand même une structure fêtière comme la FERASCOM aujourd'hui, qui est une instance de gestion des associations de santé communautaire. Alors, si on devait renouveler aujourd'hui cette structure et que, en rapport avec le quota qui est proposé, et pour dire qu'il faut donner tel nombre aux femmes dans les instances de prise de décision, dans les instances sur les listes électorales. Bon, je prends l'exemple, par exemple, de la FERASCOM. Vous ne pensez pas que ça va nous poser des problèmes? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir ces femmes-là au niveau local et avoir une représentativité, par exemple, au sein d'une structure fêtière comme la FERASCOM. Est-ce que les femmes sont prêtes à s'y adonner, c'est-à-dire que le rôle et la responsabilité que ces postes-là demandent, est-ce qu'elles sont prêtes pour aller dans ce sens? Voilà, ça c'est des réflexions que moi je pose comme ça, et c'est des choses auxquelles il faut vraiment réfléchir.
Avant de venir au défi donc de l'Union africaine, aux différents défis, aux perspectives, Dramane Coulibaly, est-ce que le droit de la femme se limite à la représentativité de la femme dans les instances de décision?
Loin de là, M. Touré, le droit de la femme au jour d'aujourd'hui au Mali est beaucoup transversal et ça se trouve dans tous les domaines. C'est pourquoi, pour directement cadrer la chose, on parle de genre. Le droit de la femme, on pense que ça a tout le temps été occulté, mais pourtant, les femmes sont encore dans leur rôle sociétal, leur rôle qui était là. Nous cherchons à évoluer. Et il faut que les choses changent. Nous avions ratifié des textes, nous avions ratifié des conventions, et là, il faut qu'on respecte nos engagements vis-à-vis alors de la cible. Donc, cela peut nous faire croire que les femmes sont marginalisées, les droits des femmes ne sont pas respectés. Alors, si vous donnez la parole aux femmes elles-mêmes, elles vont dire autre chose que ce que nous, les hommes, nous disions, que ce que nous, les hommes, nous pensons. Au jour d'aujourd'hui, avec les quelques femmes qui sont au niveau des décisions, avec quelques femmes qui arrivent à tenir dans les entreprises, dans la société, il faut leur donner la parole, il faut leur permettre de parler aux femmes pour que les femmes aient confiance en elles-mêmes pour jouer leur rôle dans la société, dans la marche de la société, dans la gestion des questions publiques. Quand elles vont arriver à se mettre en cause, quand elles vont arriver à dire que, ah, vraiment, ça, c'est nous, notre rôle, elles vont définir ça et elles vont se battre pour ça. Et cela va nous permettre de corriger. Parce que ça a besoin d'un changement de comportement et à tous les niveaux. Il faut un changement de comportement au niveau des femmes, il faut amener les femmes à avoir confiance en elles-mêmes et il faut amener les hommes aussi à être plus féministes qu'avant. Donc moi, je crois que le droit des femmes, ça, c'est à plusieurs niveaux et il faut que l'on comprenne cela et à tous les niveaux, que les femmes elles-mêmes, elles comprennent alors que c'est un processus qui est engagé et tout le monde doit se mettre en cause et que les femmes nous disent que ah, nous, on veut ça pour contribuer efficacement au développement.
Merci. On va revenir vers Mamadou Bokoum, directeur de la radio Kaoural de Mopti. Monsieur Bokoum, 1963-2016, 53 ans aujourd'hui. Est-ce que l'Union africaine a réellement évolué?
Bon, c'est, cette question de l'OEA jusqu'à l'Union africaine, c'est tout juste pour, à mon sens, c'est pour permettre à l'Afrique de relever les grands défis. C'est pour permettre à l'Afrique d'être indépendante. La question que je me pose, est-ce que l'Afrique est réellement indépendante aujourd'hui? Parce que quand on voit tout ce qui se passe à travers le monde, en tout cas les problèmes que l'Afrique est en train de vivre, ces problèmes ne sont pas le fait que les Africains soient incapables de gérer leur pays ou bien le fait que les Africains soient un peu faibles. Non, moi je dirais non. C'est parce que tout simplement on n'est pas indépendant. Je le dis parce que quand tu prends tous les problèmes, tous les conflits qui rôdent autour de l'Afrique aujourd'hui, quand tu tires la ficelle, tu trouveras que la source, c'est les Occidentaux. Faut pas avoir peur de le dire. C'est les Occidentaux. S'ils veulent aujourd'hui, il y aura plus de tensions en Afrique. Donc, 53 ans d'existence. C'est vrai, les choses ont évolué. On a quitté du parti unique au multipartisme, de la dictature à la démocratie, on le dit. C'est vrai, beaucoup de choses ont changé. Mais il reste beaucoup de choses également. Parce que le dirigeant africain est toujours sous les joues coloniales. Il faut qu'on le dise ouvertement. Nous sommes sous les joues coloniales parce que tout simplement, on ne peut pas prendre une décision sage pour notre continent. On ne peut pas prendre une décision sage pour notre pays. Parce que quand tu veux le faire, quand tu es tout président ou tout dirigeant africain qui veut se passer de la volonté des Occidentaux, dis-toi que tu émets l'idée aujourd'hui, dans une semaine il y aura une tension dans ton pays, il y aura un soulèvement et on te renverse. Donc c'est pour vous dire que l'Union africaine a 23 ans, on a progressé, on a pris beaucoup de décisions, c'est vrai, beaucoup de choses ont évolué, mais toujours nous sommes sous le joug colonial et cette Union africaine-là a beaucoup de choses à faire encore parce que le dirigeant africain doit être entre griffes et responsable. C'est pas parce qu'ils sont irresponsables qu'ils soient un peu responsables pour qu'ils prennent des décisions sages pour notre continent.
Quelques secondes de pause, nous reviendrons dans ce studio pour poursuivre cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani.
Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes donc en direct de la 5e région dans le studio de la radio Kaoural, partenaire du studio Tamani pour ce forum de la presse. Nous recevons Moussa Traoré de la radio Kounali, Mamoudou Bokoum, directeur de la radio Kaoural de Mopti, Draman Koulibaly de la MAP Mopti. On continue donc avec ce débat. Moussa Traoré, 53 ans d'existence, quels sont les acquis aujourd'hui de l'Union africaine?
53 ans d'existence, et vous voulez parler d'acquis pour l'organisation de l'Union africaine. Bon, et s'il y a acquis, c'est que quand même on est arrivé à réfléchir, et à poser des actes, à ramener en quelque sorte tout le monde dans une même organisation. Ça, c'est en soi déjà une très bonne chose. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que aujourd'hui, l'Union africaine, pendant les premières heures d'indépendance, l'idée qui avait amené la création d'une telle organisation, est-ce qu'elle est la même chose qu'aujourd'hui?
Qu'en pensez-vous d'autres problèmes, voilà, notamment d'ordre sécuritaire qui viennent, beaucoup plus de monde maintenant dans les pays, le chômage qui s'accentue, l'économie qui flanche, la vie chère dans le monde. Qu'est-ce que vous pensez, vous?
L'objectif, dans un premier temps, ça devrait être cela. Rassembler tout le monde dans une structure fêtière qui allait avoir comme mission ou comme objectif le développement du continent. Mais est-ce que ça répond réellement à ça aujourd'hui? D'abord, il y a des défis qui sont là, des difficultés, que moi j'appellerais conflit d'intérêts, que moi j'appellerais par exemple problème identitaire. Parce que aujourd'hui, pour regrouper l'Afrique dans une structure fêtière aujourd'hui, ça va être très difficile. Difficile par rapport à quoi? Parce que nous n'avons pas les mêmes identités. Tu vas prendre les Bambara du Mali, confrontés au Hutu du Nigeria, ou bien, du Rwanda, ou bien au Yoruba du Nigeria. Vous voyez, d'abord, il y a un problème identitaire qui est là, où nous n'avons pas la même façon de voir les choses, où nous n'avons même pas les mêmes réalités. Mais que cela ne tienne aujourd'hui beaucoup à aborder un aspect qui est...
Mais on a des problèmes communs, quelque part.
Pardon?
On a des problèmes communs, quelque part.
Oui, c'est des problèmes parce que nous n'avons pas la même façon de percevoir les choses. Voilà, nous n'avons pas la même façon d'analyser les choses. Et puis au-delà, Dieu merci, à une certaine époque, nous avons eu quand même des dirigeants africains qui ont fait la fierté et qui ont cru à un certain moment à cette union africaine. Mais est-ce que ceux-là, ils avaient les mêmes objectifs ou la même façon de voir que certains? Parce que déjà qu'il y a des divergences entre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en termes de dirigeants, je vais te parler à une instance supérieure. Entre les dirigeants même, il y a une divergence de vision.
Cela m'amène d'ailleurs à poser la question suivante à Dramane Koulibaly de l'AMAP. Mon petit, est-ce que aujourd'hui nos dirigeants, les présidents africains qui sont là aujourd'hui, ont le même engagement que ceux qui ont créé l'Union africaine? Alors, ceci m'amène à poser la question suivante à Dramane Koulibaly de l'AMAP. Est-ce que aujourd'hui, ces dirigeants africains qu'on a, nos présidents, ont le même engagement que ceux qui ont créé l'Union africaine?
Je dirais que oui, ils ont le même engagement. Peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. Et peut-être la vision diffère un tout petit peu. En son temps, c'était au niveau idée, au niveau idéologique. Il s'agissait de formaliser ces idées-là en actes concrets. Au jour d'aujourd'hui, ce qui fait défaut, c'est le fait que 53 ans, les idées qui ont continué à évoluer, qui ont continué à nourrir, n'arrivent pas à être traduites en actes concrets aujourd'hui. C'est ça le problème. Il y a des textes qui sont là, il y a des réflexions qui ont été menées.
Il y a quand même quelques évolutions, il y a des organisations sous-régionales qui existent. Aujourd'hui, on partage le même passeport quasiment dans toute la sous-région, ouest africaine par exemple.
Mais est-ce au jour d'aujourd'hui, cela a pu mettre fin aux tracasseries entre les États? Du tout. Malgré qu'il y ait ces situations, malgré qu'il y ait ces documents officiels entre États, mais les tracasseries continuent. Voilà, au jour d'aujourd'hui...
Dans la forme, d'accord, mais est-ce que c'est ça dans la pratique?
Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, nos dirigeants devaient être capables de donner corps, par exemple, à la création d'unités pour la défense, pour la sécurisation de l'Afrique. Ils doivent ensemble conjuguer les efforts pour lutter contre le chômage dans nos pays. Donc, là, on aura fait un grand pas, quitter la théorie pour aller vers la pratique, vers le concret.
Merci. Ceci nous amène donc à notre deuxième thème. On va parler de sécurité dans la région de Mopti. L'on se souvient quand même que Mopti, pendant la crise, a été le principal verrou de l'armée malienne. La ligne de front Kona, qui est d'ailleurs tristement célèbre, est située à seulement 75 km de la capitale régionale. De plus, un conflit communautaire a fait dans la région plusieurs morts le 30 avril dernier. Alors, aujourd'hui, monsieur le directeur Momodou Boukoum, comment va la sécurité à Mopti?
Merci. Quand j'entends parler de la sécurité dans la région de Mopti, j'ai envie de tomber en larmes. Parce que il ne se passe pas un ou deux jours où des paisibles citoyens ne tombent pas à cause de cette insécurité. Vous savez, la région du Nord, depuis la crise, la région de Mopti, depuis après la récupération des régions du nord du Mali, Mopti vit dans une situation d'insécurité extraordinaire. Quand tu prends le delta intérieur du Niger, c'est-à-dire la zone du Massina, de Tenengo jusqu'à Yoro, si tu veux de Massina Ségou jusqu'à Yoro, aujourd'hui, dans cette partie-là, il y a combien de postes de sécurité? Le cercle de Tenengu, il n'y avait que un seul poste à Tenengu ville.
On parle d'une distance de combien de kilomètres environ?
C'est des centaines de kilomètres. À Tenengu ville, Tenengu seul a 202 villages.
Donc il y a un manque de déploiement.
Il n'y en a pas de déploiement. Il n'y a, ce n'est que après ce conflit entre les Donzo et les Peuls que le poste de Djoura vient d'être à démarrer maintenant. Ils ont commencé à s'installer. Est-ce que ça aussi c'est définitivement? C'est à Djoura et à Tenengu. Mais dans toute cette bande là jusqu'à Yuwaru après, il n'y a aucun poste de sécurité là-bas. L'administration est absente. Tu passes par le Seno, vers la zone exondée. Mais il y a eu combien d'attaques là-bas? Des assassinats partout. Où sont partis?
Alors, qui sont les protagonistes? Qui sont aujourd'hui ceux qui,
c'est les bandits.
Ramènent l'insécurité? C'est ma question. Est-ce que ce sont aujourd'hui des islamistes avec Amadou Koufa dans la région? Est-ce que c'est un banditisme résiduel? Qu'est-ce que c'est?
Bon, jusqu'à une date récente, moi, je ne dirais pas que c'est des islamistes d'Amadou Koufa. Parce que, moi, je ne connais pas un front de libération qui n'a pas un responsable politique connu. Un front de libération d'une zone ou d'un secteur qui n'a pas un leader militaire. Ce n'est que tout dernièrement, à une date récente, qu'ils ont fait publier un document pour dire qu'ils font allégeance à Ansar Dine de Yadagali. Bon, moi, je me porte en faux par rapport à l'existence des islamistes dans cette zone. Je dirais que c'est des bandits qui ont des armes. Et les islamistes, qu'est-ce qu'un islamiste fait avec un forain? Qu'est-ce qu'un islamiste fait avec un chef de village? Je ne crois pas à cette thèse, personnellement. Mais, en tout cas, c'est pour te dire que la région vit dans l'insécurité presque totale, et il est temps qu'on prenne des décisions sages pour un vrai déploiement dans la région de Mopti.
Moussa Traoré, on a vu quand même quelques attentats revendiqués par le Front de Libération du Massina aujourd'hui. Quelle est l'ampleur justement, quelle est la taille de ce Front de Libération du Massina à Mopti, dans la région?
Voilà, et contrairement à beaucoup, mais moi je peux pas occulter quand même la présence de ce Front de Libération soi-disant qui se réclame du Massina, parce que quand on se réfère à certains témoignages et à certains indices par rapport à certains faits qui se sont déroulés quand même dans la région, on peut pas vraiment occulter la présence de ce mouvement-là. C'est aujourd'hui une réalité. Mais à côté de ce mouvement aussi, on est d'accord qu'il y a du banditisme, comme dira quelqu'un dans un adage bambara. C'est-à-dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a toujours des mal intentionnés qui vont profiter d'une certaine situation. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, ce mouvement qui se réclame de Amadou Koufa existe réellement. Parce que certains, par exemple, tout dernièrement, moi je suis au courant, il y a eu des attaques entre Djaloubé et Kakanya. Et c'est des gens, eux-mêmes, dans leur langage, ils se réclament. Il te parle de ça, et puis eux-mêmes, ils se réclament aussi de ça. Ils se disent l'islamiste. Et puis, tout ce que les islamistes font, je me rappelle, il y a une équipe récente d'une ONG, d'un projet qui a été attaqué tout dernièrement, et ils les ont dit, est-ce qu'on vous a pas dit qu'il faut pas mélanger les hommes et les femmes? Et tout le monde sait que de telles idéologies, ça relève quand même carrément
Il profite de l'occasion.
Oui, néanmoins.
Il profite de l'occasion parce que tu ne peux pas avoir un front sans responsable militaire. Voilà qui est connu.
C'est à partir des indices.
Merci, monsieur.
Mais Ousmane, là où je voulais vraiment évoquer, là où je rejoins beaucoup, c'est que quand même, l'insécurité dans la région, il faudrait le dire aussi, c'est vrai. Mais quelque part, c'est local. On a essayé de localiser ça. Par exemple, quand tu prends aujourd'hui le cercle de Tenengu
et une partie
du cercle de Yuwaru, tu vas voir que c'est beaucoup plus accentué vers ces zones-là. Et comme il l'a dit,
par exemple, le cercle de Yuwaru, moi, je suis au courant qu'il y a un seul poste militaire en stratégie avancée. Ça, c'est le poste de Gati. Mais la zone de Yuwaru, même de façon géographique, fait que ces gens-là ne peuvent pas vraiment évoluer de très à l'aise dans cette partie de la région. Sinon, quand même, c'est une réalité que on a l'insécurité aujourd'hui au niveau de la région. Mais cette insécurité, elle est vraiment localisée.
Merci. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour continuer cette émission.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. L'insécurité, c'est aussi le brigandage, les crimes résiduels. L'on a vu à Mopti, il y a un peu moins d'une semaine, l'assassinat odieux d'une fillette de 6 ans par un féticheur. Brahmane Koulibaly de l'AMAP. Est-ce que ce genre de pratique est courant dans la région?
Bon, ce genre de situation, vraiment, ça c'est une situation regrettable, faut le reconnaître. Alors, on a vu des assassinats, mais pour cette fille-là, vraiment, ça a été, ça a fait de l'émoi à Mopti. Une fille de 6 ans, la prendre, aller l'attacher, ligoter ses mains devant elle et l'égorger pour asperger les fétiches avec son sang. Vraiment, c'est odieux.
Alors, le principal, le monsieur, est mis aux arrêts aujourd'hui. Mais est-ce que ce genre de pratique continue encore dans le Mali?
Ben, heureusement qu'on a, avec les aveux du complice du nom de Ibrahim Maïga, il a fait des aveux et on est arrivé à arrêter le principal auteur qui est le féticheur, Alice, du nom de Ali Cissé. Donc cela m'amène immédiatement à dire que à demander aux populations de faire beaucoup attention, parce que le jour de l'arrestation du présumé Ibrahim les populations voulaient lyncher ce dernier. Et si ce dernier était lyncé, si il mourait, alors cela allait perturber les traces et le féticheur allait rester en vie avec ses fétiches et il allait continuer à asperger ces fétiches-là, avec le sang de d'autres enfants. Donc, heureusement que les populations n'ont pas pu lyncher Ibrahim Maïga. Donc, il a fait des aveux et finalement, cela a permis de retrouver le féticheur Ali Cissé lui-même. Donc, c'est ce qui va peut-être mettre un peu fin à lui ces cas. Parce que finalement, lui, il n'aura pas le temps alors d'asperger ces mêmes fétiches-là avec le sang d'autrui.
Merci. On va passer à présent au troisième thème de l'émission, la marche de l'opposition. On a vu plusieurs milliers de personnes qui ont marché pacifiquement samedi dernier à Bamako à l'appel de l'opposition. C'était le 21 mai. Ils disent contre la mauvaise gouvernance et la corruption. Est-ce que, Monsieur Bokoum de la radio Kaoural, est-ce que vous pensez que cette marche était appropriée?
Bon, la marche de l'opposition. Moi, je crois que l'opposition est dans son rôle de décrier les dérives de l'État, de décrier la mauvaise gestion et la mauvaise gouvernance. Et je crois que avec cette marche, c'est un message fort. C'est un message fort à l'endroit du gouvernement. C'est un message fort à l'endroit des dirigeants actuels. Parce que si tu vois la mobilisation que cette marche a faite, ça veut dire que même si ça ne fait pas ressortir le vrai sentiment du Malien, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui pensent ou bien qui ont cru à ces différents problèmes évoqués par l'opposition. Je me mêle pas dans l'organisation, dans le budget qu'ils ont mis dans l'organisation, non. Vu la mobilisation que cette marche a faite, ça prouve quelque part que le Malien a souffert dans son âme. Le Malien veut un changement. Le Malien veut une bonne gouvernance. Le Malien veut que l'État pense
Question très rapide. Ces dirigeants de l'opposition qui ont quand même à des moments donnés eu les rênes du pouvoir en tant que ministre, en tant que dirigeant.
Ça c'est par le passé, on parle
alors,
du présent.
Est-ce que ces problèmes n'existaient pas à l'époque et qu'est-ce qu'ils ont fait pour résoudre
ces
problèmes?
Si ces problèmes existent, l'État est à une continuité. Quand tu viens pour faire un changement, Parce que si tu vois que on change de gouvernement du jour au lendemain, on change de gouvernement d'un moment à un autre, ça veut dire que quelque part ça ne va pas. Il faut trouver une solution à un problème qui existe. Moi, je ne parle pas des acteurs qui ont organisé, de ce qui a été mis là-dedans, mais ce que je parle, sur quoi je me base. Vu la mobilisation, ça montre en tout cas quelque part que le Malien veut quand même qu'il y ait une amélioration dans sa condition de vie.
Magnifique.
Voilà, ça c'est mon point de vue et ça n'engage que moi.
Alors Moussa Traoré de la radio Kounari, dites-moi, on a parlé au cours de cette marche entre autres du retour de l'ancien président Mamadou Toumani Touré qui est originaire de Mopti. Qu'est-ce que vous en pensez?
D'accord, j'avoue que Ousmane, vous me jetez un peu le serpent à mes pieds. C'est une question assez délicate. Mais juste avant de revenir à votre question, permettez-moi. Moi, je rebondis sur ce que beaucoup m'a dit. Moi, j'ai dit qu'en temps normal, moi, je pourrais comprendre l'opposition. Mais en cette période, parce que moi, j'ai dit aux gens, depuis 2012, le Mali est en guerre. Depuis 2012, le Mali traverse une période de crise. Ça, personne ne peut l'occulter, quoi. Ça, c'est une réalité. Heureusement que nous sommes dans un pays où quelqu'un te dira que nous avons de la bénédiction. Sinon, ce problème aurait pu surgir depuis bien avant 2012. Mais c'est à partir de 2012 que les choses sont parties. Donc, en temps normal, je comprendrais l'opposition. Mais en cette période difficile, depuis 2012 à aujourd'hui, moi, je crois que l'ensemble des Maliens doivent fédérer. C'est-à-dire que ça doit aller dans un même sens. On doit avoir ce talent de patriotisme. C'est bien, une chose est de critiquer. Mais l'autre chose aussi est de dire, voilà, des solutions que moi je propose. Alors quand on regarde la marche que l'opposition a organisée, c'est vrai, on a plutôt eu à critiquer. On entend tout le temps des critiques, mais quelles sont les propositions de solutions concrètes? Le peuple aussi a besoin de ça. C'est vrai, vous êtes une opposition, mais nous on demande aussi que cette opposition, qu'elle soit une opposition constructive. C'est vrai,
Par rapport, l'opposition a fait cette marche parce qu'ils veulent que le cadre de concertation avec eux, le gouvernement, ils ont quitté la table, mais ils veulent que ces problèmes reviennent. Moi, je crois que c'est ce qu'ils ont dit au moment où ils se retiraient du cadre de concertation avec le gouvernement. Ce sont ces mêmes problèmes qu'ils ont décriés. Ça veut dire que on ne parle pas de ces, le gouvernement ne veut pas parler de ces problèmes.
Nous sommes voilà, dans donc, une dynamique. Et cette dynamique-là, c'est
mais
quoi?
Si
c'est
ils la ont proposé et le gouvernement a refusé.
Mais ils vont sortir. Du peuple malien,
oui.
L'accord pour la paix.
C'est ce qu'ils ont demandé et ils ont laissé la table. Donc, faut pas dire qu'ils n'ont pas proposé. Ils ont proposé. Peut-être que tu n'es pas au courant, ils ont proposé. Honnêtement, ils ont proposé.
Pardon.
Voilà la raison pour laquelle ils ont quitté la table.
Moi, je dis vraiment, nous sommes dans une dynamique. L'État malien est dans une dynamique. Et cette dynamique-là, c'est quoi? C'est la mise en œuvre d'un processus qui est issu du processus d'Alger. C'est l'accord pour la paix au Mali.
Ça n'a rien à voir avec le panier du ménagère.
Je vais revenir.
Ça n'a rien à voir avec le panier du ménagère.
Oui, par rapport au. Je vais vous redonner la parole.
Par rapport au retour du président Amadou Toumani Touré.
Très rapidement.
Très rapidement, Ousmane. Franchement, par rapport au retour du président Amadou Toumani Touré, si cela devrait se faire, je crois que le commun du Malien n'a rien contre ça. Du moment que le monsieur, rien n'a été retenu contre lui, il y a la présomption d'innocence qui est là encore. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant qu'on a reconnu des faits contre lui. Donc, cette présomption d'innocence qui est là lui permet réellement de revenir dans son pays et d'être accueilli vraiment dans son pays. Voilà.
Draman Koulibaly de la MAP Mopti, par rapport déjà à cette marche et au retour de l'ancien président qui a été aussi, dont il a été question également au cours de cette marche. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je vais commencer par le problème de retour du président Amadou Toumani Touré. C'est un fils du Mali. Si les Maliens n'ont rien contre lui, je ne vois pas pourquoi il ne va pas rentrer chez lui. Si on n'a effectivement rien contre lui, la justice, moi, je ne vois pas pourquoi il ne va pas rentrer chez lui. Il est un Malien comme n'importe quel Malien. Mais par rapport à la marche de l'opposition, moi, je dis vraiment que quoi que l'opposition fasse, même si on mettait tous les cadres tout de suite en place, on ne peut pas aller aux élections. Donc, l'opposition ne peut pas prétendre au pouvoir. Puisque si, tant qu'il n'y a pas d'élection, personne ne viendra. Aujourd'hui, dans la région de Mopti, voyez la situation d'insécurité aux choses à Mopti. En 2015, Mopti a enregistré environ 23 attaques, 19 braquages,
au cours desquels il y a eu 40 personnes qui ont péri, plus de 30 blessés. Ça, c'était 2015 seulement. Mais de janvier à nos jours, nous sommes à 51 personnes assassinées.
De janvier
à nos jours, à 2016. Le dernier cas, c'était la semaine dernière où on a égorgé à Dialoubé le chef de poste forestier et son ami. Notamment le vendredi, dans la nuit du vendredi au samedi, on est allé les égorger chez eux. Vous pensez que dans cette situation qu'on peut organiser des élections, l'opposition, au lieu de parler de cette insécurité grandissante qui est inquiétante, qui perturbe la vie des citoyens, on ne sait même plus où donner la tête, on va battre les pavés pour qu'il y ait des cadres de concertation pour que on puisse aller aux élections et sur. Vous voyez, nous de Mopti quand même, c'est le problème d'insécurité qui est notre priorité aujourd'hui.
Monsieur le directeur, une seconde seulement,
pour clarifier par rapport
au retour de ATT.
Je suis d'accord, parce que comme ils disent qu'on est en phase de réconciliation, le Mali est pratiquement le seul président qui a au moins 5 présidents en vie. Moi, je crois que si eux, ils se retrouvent ensemble, on va avoir la solution à nos problèmes. Mais par rapport à cette marche-là, je crois qu'il y a tout là-dedans. On dirait que les gens n'ont pas suivi un peu ce qu'ils ont décrié. Il y a l'insécurité, ils ont parlé de l'insécurité. Ils n'ont jamais parlé d'élection dans cette
parfait.
Marche.
Il nous reste très peu de temps, monsieur.
Pour votre explication.
On va clore ce chapitre et passer au dernier chapitre, au dernier thème de cette émission. On va parler un peu de viande d'âne. Bien qu'interdite par les textes en vigueur, la viande et l'abattage d'âne deviennent monnaie courante au Mali, on le remarque. Fana, Wélissébougou et d'autres destinations encore. Dans la région de Mopti, il y a à peine une semaine, les autorités ont saisi une importante quantité de viande d'âne séchée. Alors, est-ce que cette pratique, on va revenir vers vous, monsieur le directeur, est-ce que cette pratique est surprenante pour vous?
Très surprenante. Parce que pour qui connaît la région de Mopti avec sa religion musulmane, quand même, faut pas oublier que la dîna a été développée ici depuis en 1800. Quand même, donc c'est pour vous dire que la région de Mopti est fortement, je n'aime pas islamiser, est fortement impliquée dans la religion musulmane. Or, la religion musulmane interdit quand même l'abattage des ânes ou en tout cas la consommation de la viande d'âne.
Et les textes d'ailleurs.
Bon, ça je ne maîtrise pas trop. En tout cas, l'État quand même l'a interdit parce que ils ont essayé de mettre aux arrêts ceux qui se livrent à ces pratiques-là. En tout cas, à Mopti ici, moi, ça me surprend à ce que les mopticiens consomment quand même la viande d'âne. Mais heureusement que avec la vigilance de nos autorités, ils sont parvenus quand même à mettre la main sur quelques quantités de d'âne abattu, mais en tout cas, ça ne veut pas dire que à Mopti on est pour hein. À Mopti, aucun mopticien ne veut manger de la viande d'âne. Peut-être c'est pour les bobos.
Alors, dites-moi, Moussa Traoré de la radio Kounari, 706 aires environ d'abattage connues, mais beaucoup d'abattages clandestines avec très peu de moyens pour les services de contrôle. Est-ce qu'il ne faut pas augmenter aujourd'hui les moyens des services de contrôle pour que ce genre de pratique puisse éventuellement cesser?
Mais naturellement, Ousmane, naturellement. Et c'est cela même qui est demandé. Et tu as touché du doigt le problème. Quand tu dis qu'il y a manque d'infrastructures, par exemple, je vais dire, même pas des aires d'abattage. Par exemple, tu prends aujourd'hui Mopti, tu n'as qu'un seul abattoir. Est-ce que cet endroit même, il faut l'appeler abattoir?
Un seul abattoir légal.
Un seul abattoir légal.
Beaucoup d'aires d'abattage.
Où les conditions d'abattage elles-mêmes laissent à désirer. Où les conditions de transport de la viande de cette aire d'abattage jusqu'à la consommation, reste à désirer. Donc, il y a extrêmement de problèmes. Même en temps normal, en dehors de la viande d'âne, en dehors de la viande, je ne sais pas, interdite ou dite frélatée, je ne sais pas. Même la viande normale qu'on consomme, si vous prenez aujourd'hui, si vous faites aujourd'hui une étude sur du marché de la viande aujourd'hui à Mopti, la viande qui quitte avec estampillée par les vétérinaires, de l'abattoir jusqu'au marché, ça se compte au bout du doigt. Donc c'est l'abattage clandestin qui est plutôt privilégié, où les gens s'adonnent à ça. Surtout au niveau des petits ruminants, les caprins, les ovins. D'accord, les ovins, on les amène très généralement à l'abattage, mais les caprins, les ovins, très généralement au coin de la rue, dans les maisons, les gens passent tout leur temps
vraiment Koulibaly de la Map Mopti, moi je peux très facilement aller au marché, m'acheter mon mouton, venir l'égorger chez moi. Est-ce que vous pensez que il faut changer cette donne-là qui est très très ancrée dans la culture et dans les habitudes des gens?
Obligatoirement, il faut obligatoirement changer ce système. Il faut que les gens comprennent que l'essentiel n'est pas d'aller payer son animal au marché et de venir l'égorger. Il faut passer par les services techniques en la matière. Nous, Dieu merci, les viandes d'âne saisies là ne viennent pas de la région de Mopti, selon le commissaire principal de Mopti, Ousmane Sow. La viande serait venue de Ségou, de la région de Ségou. Il devait faire l'embarquement avec du poisson ici pour la destination de Nigeria. Donc c'est de là qu'en chargeant le camion que la police a été informée de la présence de ces sacs contenant de la viande séchée d'âne.
Voilà, Ousmane, rapidement, par rapport à tous ces problèmes que tu viens d'évoquer, franchement, la question que moi je me pose principalement, qu'est-ce que les autorités font par rapport à ça? Est-ce que les populations sont informées par rapport à ça? Non, je dis non. Il y a un déficit de communication qui est là entre autorités et communication, que ce soit le problème sécuritaire, que ce soit le problème de consommation de viande, que ce soit n'importe quelle population, les populations n'importe l'information, alors que l'un des rôles régaliens de ces services de l'État, c'est d'informer aussi les populations, c'est de porter l'information auprès des populations. Mais dommage, ça ne se fait pas.
Merci beaucoup. Ceci met donc un terme, merci à la vigilance des forces de l'ordre également par rapport à ces histoires de viande d'âne. Auditeurs, auditrices, nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Ils nous ont fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Il s'agit de Moussa Traoré de la radio Kounari de Mopti, Mamoudou Bokoum, directeur de la radio Kaoural de Mopti, Dramane Koulibaly de la MAP Mopti. Merci messieurs d'avoir partagé votre expertise avec nos auditeurs sur l'actualité hebdomadaire. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur notre site web www.studiotamani.org. Je suis Ousmane Diadié Touré à la présentation. Gagny Kanté et Piting Diarra ont assuré la technique avec nos amis de la radio Kaoural. Cette émission a été réalisée par Moussoukoura Konaté. Merci et à bientôt.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Halo Demandé.
Chenne Berry, Sigi.